Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 25 avec les porteurs himalayens. Vous êtes bien sur le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et avant tout, je veux vous souhaiter une très bonne année 2015 avec plein de bonheur et puis toutes les choses qui pourront vous combler. Et bien sûr, je vous souhaite d'excellents voyages. J'espère que la plupart d'entre eux se fera en Asie et n'hésitez pas surtout à la suite de vos voyages à nous faire un petit mot pour nous faire part de vos retours, surtout s'il s'agit d'endroits dont on a parlé dans l'émission. L'année commence fort puisqu'aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter cette interview avec Philippe Montillet qui est un vrai passionné du Népal et de l'Himalaya où il se rend depuis de très nombreuses années et où il a créé un lien fort avec les vrais héros de ce pays, les porteurs. C'est parti pour cette première émission de l'année, bienvenue au Népal. Alors bonjour Philippe Montillet.
Bonjour Romain.
Eh bien écoutez, vous êtes vraiment le bienvenu dans l'émission pour parler ensemble un petit moment de l'Himalaya et du Népal, parce que je sais que vous êtes un passionné de cette partie du monde et vous êtes aussi un photographe et auteur de livres, donc on va voir que tout ça est vraiment intimement lié au fil de l'interview. Le Népal, on a en fait déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission, c'était l'épisode numéro 13, et j'avais parlé avec Valérie Boffi, qui était la 150e femme de l'histoire à avoir conquis l'Everest. Voilà, donc je vous invite, si vous avez un peu de temps à l'écouter, ça devrait vous intéresser. Mais avec vous aujourd'hui, on ne va pas retourner au sommet du toit du monde, on ne va pas en être loin, cela dit, puisqu'on va faire de très très belles rencontres en haute altitude et on va essayer de comprendre un petit peu le mode de vie des véritables héros du Népal. Pour commencer, comme je demande toujours à mes invités, présentez-vous en 2 minutes, voilà, dire d'où vous venez et puis dans quel contexte vous avez découvert pour la première fois le Népal.
Alors bonjour à tous, donc Philippe Montillet, je suis né en Haute-Savoie, dans les montagnes, justement près du Mont-Blanc, à Chamonix. Et très rapidement, pendant mon adolescence, bien entendu, je suis allé sillonner le massif du Mont-Blanc avec des adultes qui m'encadraient et qui étaient un peu mes référents en alpinisme, glacier, etc. Donc j'ai assez tôt pu sillonner le massif, comme je le disais. Et puis... dès que j'ai eu de quoi me payer mon premier billet d'avion, mon rêve en fait, c'était d'aller dans l'Himalaya, puisque j'avais découvert aussi dans mon adolescence, au travers de récits, d'expéditions, etc., ce qu'était l'échelle des montagnes himalayennes, les grandes expéditions de l'époque, Herzog et tout, puis même avant, quoi, les expéditions de reconnaissance à l'Himalaya faites par les Anglais depuis 1920. J'avais lu tout ça quand j'étais ado. Alors bien entendu, ça m'empêchait pas de lire Michel Vaillant ou Lucky Luke, mais je me suis beaucoup imprégné de ces récits. Et donc voilà, quand j'ai eu une vingtaine d'années, donc dès que j'ai eu de quoi me payer mon premier billet d'avion, c'était pour Katmandou, parce que je voulais voir justement sur place à quoi ressemblaient ces montagnes, et puis je voulais un petit peu me frotter à elles entre guillemets, quoi, sans prétention. Donc voilà, alors je suis allé au Népal une première fois il y a 27 ans. Et depuis, c'est vrai que j'ai attrapé le virus du Népal, comme on peut dire. Donc, j'y vais 1 à 2 fois par an depuis.
Quand même. Donc, c'est systématique chaque année un petit voyage au Népal.
Voilà. Donc, même 2 fois. Là, par exemple, là, j'en reviens. C'était cet automne et j'y retourne au printemps déjà. J'ai déjà mis en place autre chose. Alors, j'y suis allé pour, bien entendu, la montagne. Au début, c'était la montagne. C'était l'appel de la montagne, l'appel de l'Himalaya, mais rapidement, en fait, j'y suis retourné, pas pour seulement la montagne, mais aussi pour les gens qui y habitent. Puisque là-bas, comme vous le savez, la montagne, et ça c'est un peu unique au Népal, elle est habitée partout jusqu'à 4800 mètres. La latitude fait que, à 4800 mètres, justement, contrairement au Mont-Blanc, il n'y a pas de neige, donc les villages sont là. Ils sont habités toute l'année et puis les gens survivent ici comme ils peuvent avec la culture, etc. Le portage, on va en parler. Et donc ça, c'est ce qui m'a bluffé dès le premier voyage. Et c'est ce qui m'a fait revenir aussi de nombreuses fois et toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, j'ai quand même participé à des expéditions. Je suis monté quand même en altitude aussi. J'aime ça. Mais ce que j'aime, c'est surtout, voilà, cheminer dans ces hautes vallées qui conduisent vers les sommets. Et donc, croiser le regard et la vie de tous ces gens qui y habitent.
D'accord. Donc, 27 ans d'expédition au Népal. À combien vous êtes monté au niveau de l'altitude?
Au niveau altitude, alors, moi, j'ai pas encore fait de 8000 mètres parce que c'est pas un objectif en soi pour moi, mais je suis monté, par exemple, sur deux montagnes assez mythiques du Népal, j'ai escaladé la Mada Blanc, qui est à 6856 mètres, qui est vraiment la montagne mythique de la région du Khumbu au Népal et qui est très, très prisée par les alpinistes du monde entier. Et puis, j'ai escaladé une autre montagne qui est un peu plus haute, qui s'appelle le Pumori, qui est face à l'Everest, à 7200 mètres.
D'accord, donc ça reste quand même déjà assez haut.
Sinon, j'ai fait pas mal de 6000. Bon, les 6000 là-bas, c'est de la petite montagne, quoi. Pour eux, c'est de la montagnette. Pour nous, c'est vrai que, enfin, pour nous occidentaux, c'est vrai que quand on fait un 6000 au Népal, c'est déjà un gros challenge. Pour eux, voilà, c'est une échelle un peu plus réduite, forcément. À côté des géants, les 6000, c'est des petits tas de terre, quoi. Enfin, de terre ou de glace, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même de la glace, mais voilà. Ouais. Donc, j'ai fait, en tout, j'ai fait, je sais pas, une dizaine d'ascensions, dont ces deux sommets majeurs, là, dont je viens de vous parler. Puis, j'ai en projet, bien entendu, d'en refaire d'autres, hein, donc, voilà, on verra.
D'accord. Et alors, j'imagine, pour avoir feuilleté un petit peu les résumés de vos livres sur Internet, on va en parler à la fin de l'émission, que vous avez aussi fait des vraies rencontres là-bas, parce que ce n'est pas seulement voir les montagnes et puis contempler cette beauté naturelle, c'est aussi les rencontres humaines que vous avez faites. Donc, racontez-nous un petit peu les premières rencontres qui vous ont marqué et puis avec qui c'était.
Les premières rencontres qui m'ont marqué, dès les premiers voyages, donc il y a plus de 25 ans, hein, c'était justement du fait que tous les gens du pays marchent dans toutes les hautes vallées, il n'y a pas de route, il n'y a pas de téléphérique, il n'y a pas de train à crémaillère, il n'y a pas de piste pour que les 4x4 passent, il n'y a aucune solution autre que la marche pour se déplacer de vallée en vallée, et puis aussi pour apporter les marchandises, en fait, dans toutes les vallées, les biens de première nécessité, les récoltes de légumes, le matériel pour les écoles, mais aussi des matériaux de construction, etc. Très très rapidement, dès mes premiers voyages, j'ai été vraiment stupéfait, bluffé par le travail des porteurs. Et les porteurs, vous précisiez au début de l'émission ces hommes, mais en fait, il y a aussi ces femmes, puisqu'il y a des femmes qui font le métier de porteur aussi, okay. Un peu moins que les hommes, enfin, il y a quand même une bonne proportion de femmes. Et alors, ce sont des personnes qui sont les, entre guillemets, les camionnettes du Népal, c'est-à-dire que ce sont eux qui livrent tout au long de l'année, quelle que soit la saison, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid ou chaud. Eh bien, ils acheminent comme ça, sans arrêt, le long des sentiers, qu'ils se font donc à pied, tous ces produits dont on a besoin tous les jours, y compris pour construire des maisons, donc les poutres, les tôles. Moi, j'ai assisté à des transports mais complètement fous, quoi, complètement incroyables. Mmh. Et ça m'a beaucoup marqué dès le début. Alors, les premières rencontres, il y a eu bien sûr des personnes qui ont déclenché plus d'intérêt pour ça au début. Je pourrais pas les citer parce qu'il y en a plein. Il y a eu des enfants aussi qui portent. Il y a des qui est pour aider leurs parents. Hein. Mm-hmm. Il y a des jeunes adultes. Il y a des adultes un peu plus vieillissants qui étaient un peu sur la fin de leur carrière de porteur. Mais c'est ça qui m'a vraiment bluffé. Ou en plus du fait que donc tous ces gens-là habitent en altitude, donc ce sont des montagnards et des paysans, puisqu'ils habitent, je vous dis, à 4000, 4005 toute l'année. Et en plus, ils cultivent la terre, forcément, pour s'autosuffire autour des villages. Et donc, voilà, tout cet ensemble d'activités m'a énormément touché dès le premier voyage, et continue à me toucher d'ailleurs à l'heure actuelle quand j'y retourne. Là, j'en reviens, j'ai encore revu plein de porteurs que je connais. Et de les voir travailler de cette façon-là, c'est assez exceptionnel.
Voilà, même 25 ans après, ça vous impressionne toujours autant et ça vous émeut toujours autant de voir les conditions dans lesquelles vivent ces gens.
Exactement, ouais, exactement. Alors, pour eux, il n'y a pas de côté, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de côté dégradant à faire ce travail. Mmh. Ils portent parce qu'ils sont porteurs. Alors, ils sont d'ethnie Sherpa ou pas, mais en tout cas, ils sont porteurs. Et ils sont assez fiers de leur travail parce qu'ils savent qu'ils sont la cheville ouvrière de toutes ces vallées. Et sans eux, rien ne serait possible. Donc, quand je dis rien ne serait possible, c'est aussi bien, enfin, c'est valable aussi bien pour nous, occidentaux, qui allons faire des trekking ou des expéditions là-bas, mais aussi pour les gens du pays, c'est-à-dire aussi pour leurs congénères, qu'ils arrivent à livrer justement pour les matériels, les matériaux divers dans les villages.
D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, bon, évidemment, ils ont un travail très très difficile au quotidien, mais est-ce qu'on peut dire que ces gens-là prennent un certain plaisir à faire ce métier? Comment ils ressentent leur propre métier?
Alors, je dirais pas que c'est un plaisir, mais par contre, c'est un travail comme les autres pour eux. Hein, c'est un travail comme les autres. Ils savent qu'il y en a qui, par exemple, sont instituteurs dans les écoles. Il y en a qui donnent des cours. Il y en a qui sont pilotes d'avion. Et eux, ils sont porteurs. Eux, ils sont porteurs. Donc, c'est pas vraiment un plaisir, mais c'est une contrainte. Mais encore une fois, ils sont assez fiers de faire ce travail parce qu'ils savent qu'ils sont les colporteurs en fait. Ils correspondent aux colporteurs qu'on avait en Occident dans nos campagnes il y a 100 ans quoi. Donc ce sont des gens qui amènent du matériel d'une vallée à l'autre, hein, en altitude, sur des sentiers parfois très escarpés. Voilà, quand on les voit monter du matériel jusqu'à près de 100 kilos, même plus des fois sur des sentiers à 4000 mètres, c'est vrai que ça fait un peu bizarre.
C'est considérable.
Oui. Ah ouais, c'est fou quoi. Mais en même temps, ils sont les colporteurs aussi de nouvelles. Par exemple, ce sont eux qui amènent les nouvelles du bas de la vallée vers le haut, d'une vallée à l'autre. Ils savent qu'il y a un événement qui s'est passé et donc ils le transmettent d'une vallée à l'autre et tout. Donc c'est un vecteur très important pour aussi le côté social, le côté économique des vallées.
D'accord.
Ils sont assez fiers de faire ce travail, même si, bien entendu, c'est quand même une contrainte. C'est un travail de forçat qu'ils font tous les jours. C'est un travail de forçat, un travail de dingue. Moi, la petite anecdote que je donne souvent, c'est que les Népalais donc, sont des personnes assez petites, assez râblées comme ça, très musclées, très, très nerveuses.
Ouais.
Eh bien, j'ai croisé un porteur que je connais bien qui s'appelle Camille. Une fois, je l'ai vu arriver avec une charge et je lui dis, mais là, Camille, t'as plus lourd que d'habitude. Et il m'a dit, oui, en rigolant, hein, il me dit, oui, là, j'ai 120 kilos.
Wow.
Alors, j'ai regardé, je l'ai cru parce que j'ai l'habitude maintenant, même à distance, de me représenter un peu la charge qu'ils ont sur dos. Alors donc, je l'ai suivi pour le reste de la journée. Je suis resté avec lui et j'ai assisté au pesage, à la pesée à l'arrivée, parce qu'il y a toujours la pesée de la charge au départ et la pesée à l'arrivée par le patron. C'est un moyen pour eux de contrôler que rien n'a disparu en route, en fait. C'est obligatoire. Et donc, j'ai assisté à la pesée à l'arrivée, et effectivement, à l'arrivée, il y avait 122 kilos, c'est-à-dire 2 kilos de plus encore que ce qu'il m'avait annoncé.
Wow.
Et je lui ai dit, en rigolant, tu n'oublies pas, Camille, de te faire payer pour ces 2 kilos en plus, puisque c'est 15 roupies le kilo. Hein, c'est payé au kilo, donc 15 roupies le kilo, ça te fait 30 roupies de plus pour la journée. Là. Voilà, donc, mais il me dit ça avec le sourire, quoi. Ouais, ils sont vraiment bluffants, quoi.
Ouais, c'est incroyable. Je pense qu'il y a vraiment peu d'endroits dans le monde où on peut voir ce genre de choses. Je fais un parallèle dans une autre région du monde, enfin d'Asie, mais quand même bien plus loin, à Java, le volcan Kawaijen. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais c'est les mêmes choses, c'est des 80, 90,
porteurs de
100,
soufre.
Voilà, les porteurs de soufre du volcan Kawaijen,
ouais.
Dont on a parlé d'ailleurs dans l'émission. C'est aussi des gars incroyables qui portent voilà, parfois plus de 100 kilos avec des épaules totalement déformées. Et surtout aussi parfois en tong. Alors je crois qu'au Népal, il y a aussi des porteurs qui sont dans des conditions qui ont très peu d'équipement. Hein.
Alors au Népal, bon, ça s'améliore quand même pas mal. Moi, j'ai noté vraiment une amélioration ces 4-5 dernières années, donc très récente hein, l'amélioration. Mais j'ai parlé souvent avec des porteurs que je voyais évoluer avec des charges énormes et justement en tong ou avec des toutes petites... Des petites sandales très fines et tout. Et en fait, ils m'ont expliqué, et je peux le concevoir, ils m'ont expliqué qu'en fait, sur les sentiers, même quand on a 80, 90, 100 kilos sur le dos, donc on marche très très lentement dans des pentes, il y a des dévers, etc. Le chemin est bien préparé, mais en même temps, bon, il n'est pas régulier comme si c'était goudronné, bien sûr.
Mm-hmm.
Et donc, le fait de marcher en tong ou en petites sandales, pour eux, ils appréhendent mieux le sol ainsi, et ils risquent pas d'être déséquilibrés par un petit trou ou un caillou qui pourrait les gêner, parce que c'est comme ça qu'ils sentent le mieux le sol,
mm-hmm.
et qu'ils sentent le mieux comment équilibrer leur charge au fil des pas, en fait. Donc, parfois, effectivement, on les voit en tong ou en sandales, mais pour eux, c'est presque plus confortable parce que c'est presque plus sécurisant.
D'accord, ça paraît quand même incroyable.
Ben oui, c'est incroyable, mais je ne parle pas de la dimension, bien sûr, après du froid qui peut intervenir, parce que maintenant, quand même, ils sont beaucoup mieux chaussés qu'il y a seulement 5 ans en arrière. Donc, dès qu'ils vont un petit peu plus haut, quand même, là, ils ont des bonnes chaussures maintenant. Des bonnes chaussures et un équipement, d'ailleurs, qui est beaucoup plus adéquat qu'à l'époque.
D'accord. Je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur les Sherpas aussi, puisque je pense qu'il y a une certaine incompréhension. Souvent, les porteurs du Népal, quand on parle de porteurs, on pense que c'est des Sherpas. Mais en fait, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les Sherpas, c'est une ethnie avec sa propre origine, sa propre culture. Et on ne devient pas Sherpa, on est Sherpa. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser. Et je voulais avoir votre éclairage un petit peu sur l'histoire de ces gens, sur l'origine de ces gens et sur leur mode de vie actuel aujourd'hui, en 2015. Comment vivent-ils?
Oui, alors c'est effectivement très important ce que vous soulevez. Il y a une confusion sémantique effectivement qui se fait depuis tout le temps pratiquement sur porteur égale Sherpa. Alors en fait Sherpa effectivement c'est une ethnie, vous l'avez bien souligné, avec donc il y a un grand S devant Sherpa. C'est comme quand on dirait un Breton en France ou voilà, hein, ça correspond à ça. Finalement c'est originaire de la région de l'Est. Sherpa en tibétain, ça veut dire originaire de la région de l'Est, c'est-à-dire la région de l'Everest. Donc ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps. Ils sont venus du Tibet, mais c'était au XIIIe ou XIVe siècle, je crois, hein, les premiers. Donc ils ont commencé à peupler ces hautes vallées et ils sont restés là, ils se sont implantés ici, dans ces hautes vallées, région de l'Everest, du Khumbu. Et puis, eh bien, ils ont commencé naturellement, puisqu'ils habitaient toute l'année à 4000, 4500 mètres et tout, donc une très grande tolérance et aptitude à l'altitude. Ils ont commencé, bien sûr, à travailler dans les champs, puisqu'ils sont aussi paysans, comme je disais, mais c'est eux qui ont été naturellement orientés vers le portage. Parce que ils ont toujours porté, c'est une tradition chez eux, et ils ont toujours su que de toute façon, pour cheminer d'une vallée à l'autre à ces altitudes-là, en passant des fois certains cols enneigés, etc., il fallait porter les charges. Alors ils ont un système de portage où ils sont un petit peu penchés en avance, donc la charge est un peu répartie le long du dos, et puis ils ont une sangle frontale de rappel qui leur permet, ben oui, de soulever, comme on le disait, des charges absolument de dingue, quoi. Mais voilà, ils sont préparés presque de manière innée à ce portage, et c'est vraiment une tradition dans cette région.
D'accord.
Donc, les Sherpas, donc avec un grand S, font partie des porteurs. Ils représentent à peu près 80%, enfin 75% des porteurs.
Ouais, quand même.
Oui, quand même, ils sont un peu majoritaires, mais bien entendu, il y a d'autres ethnies qui font le portage. Je pense aux Gurung, aux Tamang, qui sont des autres ethnies du Népal, qui sont originaires de régions un peu plus basses en altitude, mais qui montent volontiers jusqu'à 4000 aussi, 3500, 4000, sans problème. Par contre, les Sherpas, ils ont cette spécificité qui fait que eux, on les retrouve encore beaucoup plus haut. C'est-à-dire que quand il y a une expédition, notamment, on en parlait tout à l'heure, s'il y a une expédition, eh bien là, on aura essentiellement des Sherpas qui vont nous accompagner parce que c'est eux qui sont les vrais dieux du portage en altitude. Et ils sont non seulement porteurs en altitude, mais ils sont aussi, on va dire, assistants du guide, puisqu'ils installent aussi des cordes fixes sur des glaciers, ils installent les camps de base et les camps supérieurs dans la glace. Ils savent trouver les bons endroits, etc. Ils préparent tout, ils sont incroyables, quoi. Donc en fait, là, pour les Sherpas et en altitude précisément, ça dépasse largement le rôle du porteur de base, on va dire, qui lui chemine avec du matériel sur les épaules pour livrer des villages dans les hautes vallées. Là, on a un cran au-dessus, hein, c'est vraiment les porteurs d'altitude. Alors ces gens-là, les Sherpas, ils font donc du portage, on va dire, dans les hautes vallées et parfois en altitude pour des expéditions. Mais de toute façon, ils sont originaires de cette région du Khumbu, la région de l'Everest. Ils ont créé des villages. Ils vivent assez bien en général parce que ils ont comment dire, ils se sont servis de l'apport du tourisme, du trekking, des expéditions pour créer des lodges, donc les on va dire les refuges locaux, hein, des lodges, etc. Ils ont le sens du business, si vous voulez, dans la peau, donc ils ont aussi su tirer profit du tourisme et ne pas faire une exode rurales, finalement, de leur vallée vers Katmandou, par exemple. Mais au contraire, ils ont su préserver une activité dans leur vallée et même l'augmenter. Et puis, en plus de ça, ils ont des bêtes, donc ils ont des yaks. Hein, ce sont des paysans, donc ils ont des yaks. Alors, les yaks, ils leur servent pour la laine, le lait, pour la culture, bien entendu. Hein, et c'est grâce aux yaks qu'ils arrivent à labourer, etc., puisqu'il n'y a pas de tracteur, bien entendu. Et puis aussi, le yak, quand ils ont plusieurs bêtes, eh bien, ils louent aussi les bêtes pour transporter le matériel dans la région, puisqu'il y a des porteurs, bien sûr, hommes en majorité, mais il y a aussi des portages qui se font à dos de yak.
D'accord.
Donc, tout ça fait que, voilà, il y a une activité incroyable entre trekking, travaux des champs, portage, lodge, etc. Et voilà, ça, ce sont les Sherpas. Et les Sherpas, donc, originaires de la région de l'Everest, ils sont là depuis très longtemps. Et ils ont un pouvoir, une capacité innée au portage. Et c'est une vraie tradition qui se perpétue de père en fils.
Et quelle est la reconnaissance du pays pour ces hommes? Parce qu'on, bon, on va bien sûr évoquer ce qui s'est passé en avril, 18 avril 2014, l'année passée,
ouais,
qui a pris la vie de 16 Sherpas. Pendant une expédition en haut de l'Everest, et il y a eu pas mal de protestations, il y a eu la grève, ils ont fait la grève, et on sait aussi que les compensations financières pour les familles des défunts, hein, des Sherpas qui ont laissé leur vie, étaient très faibles. Alors, quelle est aujourd'hui la reconnaissance en 2015 du pays pour ces hommes?
Alors, la reconnaissance pour ces hommes dans le pays, elle est... Bon, là, ce que vous venez d'évoquer, on parle du portage d'altitude, hein. Il y a quand même une nuance entre les deux, parce que, si vous voulez, un porteur traditionnel des vallées, lui, il est payé au kilo. Donc, en fait, plus il porte, plus il est payé, en gros, hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas étonné, des fois, de voir des gens arriver avec 90, 100 kilos sur le dos, parce que ceux-là vont gagner plus que celui qui a que 60 kilos sur le dos. Ça, c'est le portage traditionnel qu'on appelle le portage des vallées. Et en fait, les vallées, là-bas, ça va jusqu'à 4500 mètres, 4700 mètres. Ensuite, rentre en jeu ce dont on a discuté juste auparavant, c'est le portage d'altitude. Donc là, c'est pour des trekking engagés avec des passages de cols glaciaires, ou alors des petites ascensions de 6000, ou alors des grosses expés comme l'Everest.
Mmh.
Là, ces porteurs-là ont une rémunération qui est très, très importante par rapport, bien sûr, au coût de la vie au Népal, hein. Ils gagnent très, très bien leur vie. Par contre, là, ce qui s'est passé au mois d'avril 2014, et j'ai été interviewé d'ailleurs à l'époque à ce sujet-là, ils se sont mis en grève parce qu'effectivement, il y en avait 15 ou 16 qui avaient disparu dans une grosse avalanche sur l'icefall de l'Everest. Mais ils ne sont pas indemnisés, c'est-à-dire qu'ils ont une assurance qui est contractée par les expés, en fait. Hein, ça dépend pas du tout du pays. C'est les expés qui assurent leurs porteurs d'altitude plus ou moins bien. Et là, il se trouve que ces pauvres Sherpas qui ont disparu, eh bien, étaient très mal assurés. Pour vous donner un ordre d'idée, un Sherpa qui disparaît dans une avalanche à l'Everest, même s'il gagne très bien sa vie pour faire cette expédition, mais s'il disparaît, on va donner 150 euros à sa famille.
Ouais, c'est rien.
Ça, c'est quand même un vrai scandale. Et moi, je soutiens entièrement la grève qu'ils ont faite à ce moment-là. Il y avait eu une interview croisée. Bon, moi, j'avais été interviewé, puis il y avait un guide aussi que je connais qui était interviewé en même temps, en duplex, hein, en quelque sorte. Et...
Mm-hmm.
Et lui donnait son point de vue un petit peu de, on va dire, de businessman, d'organisateur d'expé et tout, et il disait que, enfin, lui trouvait ça dommage que les expés s'arrêtent parce que voilà et tout. Et moi, je disais le contraire. Je disais mais heureusement que ça s'arrête et qu'ils manifestent parce que ça, c'est absolument pas normal. D'un côté, ils gagnent très bien leur croûte quand ils vont faire des grosses ascensions et tout le monde est content de les avoir. Par contre, s'il y a un pépin et qu'il y en a qui meurent. La famille, les enfants, la femme et souvent même les parents, puisque vous savez là-bas que les anciens vivent avec les enfants, hein, puisque c'est les enfants qui surviennent à leurs besoins. Eh bien, voilà, si on leur donne 150 euros, ça va pas, quoi, par personne. Même avec le coût de la vie au Népal, c'est pas tolérable, ça.
Ouais, c'est certain.
Alors voilà, donc la nuance, elle est là, hein. Il faut bien séparer le portage traditionnel et le portage d'altitude. Portage d'altitude, ces gens-là doivent être beaucoup mieux assurés, ça c'est sûr. Et quand s'il y en a qui disparaissent, qui peut toujours arriver en montagne, et ce qui arrive aussi à des Occidentaux, bien entendu, il faut que les assurances soient beaucoup plus correctes et réfléchies. La vie d'un homme, c'est pas 150 euros, quoi. Ça, c'est sûr.
C'est sûr. Et est-ce qu'on sait déjà à quoi va ressembler la saison 2015, hein, de la montée de l'Everest, puisque bon, c'est pour bientôt, ça va commencer dans quelques mois. Est-ce qu'on sait à quoi ça va ressembler? Est-ce que le pays a évolué à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé?
Alors, je sais qu'après la fameuse avalanche d'avril, il y a eu beaucoup de tractations et bien entendu, le gouvernement s'est inclus dans ces discussions, dans ces négociations, parce que pour eux, c'est une source de revenus très importante. Hein. Le tourisme au Népal, c'est la première source de revenus. Donc, tourisme au sens large, hein, c'est-à-dire visite du pays, trekking et expédition. Puisque les droits sont assez importants pour avoir des permis d'ascension, etc. Et il y a bien sûr une partie qui revient au pays. Donc le pays est concerné finalement au premier plan, hein, même si, comme je le rappelle encore une fois, les assurances sont pas contractées par le pays. C'est des assurances qui viennent d'expés privés, étrangères souvent. Donc ça, c'est à discuter, je dirais, de Sherpa à organisateur d'expés, mais avec quand même un avis consultatif important du Népal, puisque voilà, il tire une manne financière importante de toutes ces expés. Alors pour 2015, moi j'ai pas, là j'y étais récemment, j'ai pas entendu de changement majeur pour l'instant. Ce que je sais, c'est qu'à l'automne, il y a eu des expés. Alors après, dans quelles conditions? Est-ce qu'ils ont eu voilà un soutien de la part du gouvernement? Est-ce que ça a été déjà réévalué à la hausse? Honnêtement, je ne sais pas. Là, les dernières choses, je ne les connais pas. Je vais sûrement en savoir plus au printemps, mais pour l'instant, j'ai pas eu d'écho très précis à ce sujet.
D'accord, bon, on va essayer de suivre ça avec intérêt. Parce que ouais, j'y étais en fait récemment, j'étais au Népal il y a à peu près un mois et demi. Alors pas pour une expédition de haute altitude, je suis allé dans la région des Annapurna pour aller observer les Annapurna depuis Pune Hill, donc pas très très haut, hein, 3200 mètres. Mais c'était 10 jours après l'avalanche de Torong Pass,
ouais,
qui a fait aussi pas mal parler d'elle. Il y a eu pas mal de morts également. Et c'est vrai qu'il faut suivre un peu ce qui se passe après ces choses-là, parce qu'après l'effet spectaculaire de la news à la télé et les images qu'on voit, il faut suivre. Il faut suivre ce qui se passe, parce qu'on n'en parle plus après pendant... On n'en parle plus.
Bien sûr.
Donc c'est important de se documenter là-dessus.
Oui, exactement. Et de suivre les choses, c'est sûr.
Alors, merci d'avoir partagé toutes ces petites histoires et puis le mode de vie de ces gens-là. J'aime bien aussi qu'on parle dans l'émission un peu de tourisme, avec quelques conseils ou quelques coups de cœur que l'invité partage. Donc, si ça fait plus de 25 ans que vous allez au Népal, une à deux fois par an, j'imagine que vous avez plein de coups de cœur et de conseils. Donc, est-ce que vous avez, en dehors un petit peu de ces lieux très courus qui sont le camp de base de l'Everest, le camp de base de l'Annapurna peut-être, qui sont voilà des choses très très connues maintenant, est-ce que vous avez des coups de cœur, des petits villages, des petits coins en Népal dont vous aimeriez parler?
Alors oui, bien sûr, j'ai des tas de coups de cœur et je continue à en avoir d'ailleurs toujours des nouveaux, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi ça fait plus de 40 fois que je vais au Népal et j'ai toujours des coups de cœur, des nouveaux centres d'intérêt et tout. Quand on va souvent là-bas et depuis longtemps, on arrive après à trouver des itinéraires originaux, on arrive à faire se rejoindre des vallées qui normalement ne se rejoignent pas, ou en tout cas mal, ou en tout cas c'est pas prévu dans les, on va dire, les parcours traditionnels qui sont proposés par des agences de trekking ou des choses comme ça. On rentre dans l'originalité, quoi. Donc moi ce que j'aime bien, c'est arriver dans une vallée qui est censée être un cul-de-sac, mais arriver par le haut en descendant des cols, et puis arriver donc voilà par le haut de la vallée et redescendre vers la sortie de la vallée, alors que normalement on fait un aller-retour, des choses comme ça. Ça j'aime beaucoup. J'aime aussi maintenant faire des enchaînements de cols, pareil pour finalement faire se relier deux ou trois vallées, hein, voilà. Bon, sinon dans les en dehors des deux là que vous avez cités, camp de base de l'Everest, bon ça c'est le grand classique. Mm-hmm. Annapurna, le camp de base de l'Annapurna, je dirais que le grand classique à l'Annapurna, c'est surtout le tour des Annapurna. Ouais. Le camp de base de l'Annapurna, c'est un petit plus qu'on peut faire après le tour d'ailleurs, ou alors on peut faire seulement ça, mais c'est un tout petit peu moins couru que le tour des Annapurna. En tout cas, ces deux trekking là, forcément, c'est les plus vendus, c'est les plus fréquentés, et là il y a beaucoup de monde. Mais il y a des nuances à apporter à ça, parce que même le camp de base de l'Everest, on peut y aller de plein de manières différentes. Et par exemple, moi, ce que je conseille aux auditeurs et à vous-même peut-être, c'est le jour où vous voulez aller au camp de base de l'Everest, ne prenez pas la route traditionnelle depuis Namche Bazar, qui même si elle est très belle, hein, je ne crache pas dessus, elle est magnifique, hein, mais Namche Bazar, Kumjung, Fortse, etc., et puis monter Feriche, Lobuche, et en allant vers le camp de base de l'Everest, mais passer par la vallée qui est à gauche, par la région qui s'appelle Rolwaling, Donc là, à Namche Bazar, il faut simplement tourner à gauche au lieu de continuer tout droit, et puis vous faites la boucle. Bon, il faut quelques jours supplémentaires quand même, mais ça vaut le coup. Et vous prenez la vallée par la gauche, et là, vous revenez par le dessus en prenant deux cols d'altitude, le Renjola, le Chola Pass, etc. Et là, vous êtes dans un environnement certes moins habité, mais magnifique, grandiose, et là, il n'y a personne. Alors vous allez vers le camp de base de l'Everest. Et vous retrouverez finalement le monde, en prenant ce parcours-là, vous retrouverez le monde, par exemple, les 2, 3 derniers jours. Enfin, le monde, entre guillemets, parce que c'est pas non plus l'autoroute, hein, mais vous retrouverez du monde quand même, seulement pour les 2 ou 3 derniers jours, juste avant d'arriver au camp de base de l'Everest. Et là, c'est une arrivée par le haut, quoi. Une arrivée par le haut dans tous les sens du terme, parce que c'est grandiose, c'est magnifique, on est en pleine nature, c'est très minéral, il y a des cols incroyables au bord des glaciers. Il y a les lacs glaciaires aussi de Gukyo, bien entendu, avant de prendre le Chola Pass. Ça a une autre gueule si on veut aller au camp de base de l'Everest. C'est très sympa. Et puis après, ben c'est pareil, en redescendant du camp de base de l'Everest, on n'est pas obligé de prendre la route que tout le monde prend aussi pour retourner à Tenboche. On peut aussi faire un petit détour par le col du Kongmala, par exemple, qui vous amène à Chukung. Ça, c'est des petites variantes qu'il faut absolument faire et découvrir, plutôt que de suivre forcément l'autoroute, entre guillemets, quoi. Alors sinon, après, il y a d'autres régions, bien entendu, qui sont plus intimistes. Hein, je pense à la région de Narfou, qui est au-dessus de la région des Annapurna. Il y a la région du Manaslu, qui est très belle. Hein, le tour du Manaslu, c'est très beau. Il y a une autre route pour faire le tour du Manaslu qui est vraiment magnifique. Hein, il y a une voie normale, on va dire, et puis il y a une voie qu'on appelle la haute route du Manaslu, et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis sinon, alors moi, on va dire mes deux destinations phares au Népal, en dehors de toutes ces régions que de toute façon j'adore, mais c'est le Mustang et le Dolpo.
Mustang, j'en ai beaucoup entendu parler, et c'est déjà c'est un nom qui fait envie. Le nom est joli.
Ouais.
J'ai vu quelques images qui font absolument rêver, parce que c'est quand même très différent au niveau des paysages, j'ai l'impression.
Ah, ça n'a rien à voir. Bah, disons que quand vous regardez la carte, le Mustang dépasse en fait la ligne de la frontière nord-tibétaine, donc côté tibétain. C'est vraiment une enclave tibétaine au Népal, hein, le Mustang. Donc c'est vraiment népalais, mais en gros, c'est presque pris sur le territoire tibétain. Et c'est vrai que les paysages, les reliefs, les couleurs, la configuration géologique de la région est absolument incroyable. Alors cette région, malheureusement, elle est, enfin je dis malheureusement parce que je sais pas si c'est bien, mais elle est en train d'être un peu défigurée par un projet de route qui est d'ailleurs financé par les Chinois. Et oui, parce que à l'est du Népal, il y a une route qui relie Katmandou à Lhasa au Tibet. Et en fait, les Chinois finance une route qui est en train de commencer à être construite depuis plusieurs années déjà, pour traverser le Mustang en fait. Donc ça va être une autre liaison entre la Chine et l'Inde à travers le Népal, mais côté ouest. Et ça, c'est un peu voulu par les Chinois, bien entendu, pour le côté commercial et business du pays. Mais donc il va y avoir une piste à terme qui va traverser le Mustang. Et là, ce jour-là, eh bien, la région dont on parle, avec son originalité et son côté géologique, et même historique, hein, c'est une très très vieille région. Il y a des très vieux monastères qui ont 850 ans, il y a des habitats troglodytes encore creusés dans les falaises et tout, donc c'est vraiment magnifique. Et avec cette route, ben, je crains que ça, après, ça bascule vers autre chose et ça soit plus une piste comme ça qu'on va prendre pour traverser cette région en quelques heures, quoi.
Et on parle de quel horizon pour la fin de la construction de la route?
N'y a pas d'horizon, il n'y a pas de deadline, mais bon, on a déjà commencé puisque par le haut du Tibet, il y a déjà une piste qui arrive à Lomantang et à la capitale. Pour l'instant, c'est un peu plus bas. Par contre, pour la version sud de la route qui monte, donc la vallée de la Kaligandaki jusqu'à Kagbeni, là il y a déjà la piste, et puis il commence à gratter, parce qu'à terme, bien sûr, ça va se rejoindre, quoi. Donc il y a encore toute la région à traverser, c'est pas encore fait, mais ça va prendre des années. Et j'espère, en tout cas, au moins qu'ils vont préserver les villages et qu'ils vont bien s'y prendre pour faire cette piste. Bien entendu, ils ont droit aussi à avoir des accès routiers pour être mieux desservis, etc. Mais j'ai peur que ça soit un peu fait à la va-vite et mal fait.
C'est un peu le risque.
Ça me fout, ouais, ça me fout un peu la trouille, ça. Voilà, en tout cas, la région du Mustang, pour en revenir à ce qu'on disait, est fabuleuse. Et puis la région du Dolpo, alors là, c'est encore autre chose. La région du Dolpo, c'est vraiment une région très à l'écart du reste du Népal. Hein. D'ailleurs, Dolpo, ça veut dire le pays caché. Donc, c'est très à l'écart, très à l'ouest, au nord-ouest du Népal. Et là, on est dans une région quasi moyenâgeuse au niveau mode de vie. Les caravanes de yaks, etc. C'est fabuleux, quoi.
C'est vraiment ce qu'on imagine, en plus, quand on parle du Népal. On pense à ces caravanes de yaks. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'image que j'ai. Alors, quand je suis allé dans la région de Poonj Hill, évidemment, j'en ai pas vu. C'était trop bas.
Ouais.
Mais lors d'un prochain voyage au Népal, c'est clairement ce que je veux voir. Je veux voir ces images.
Ouais, donc c'est magnifique. Alors, les caravanes de yaks, vous pouvez les voir dans le Khumbu. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les Sherpas ont beaucoup de bêtes. Et il y a beaucoup de caravanes de yaks qui cheminent sur les hauts sentiers du Khumbu. Et c'est très, très beau. Quand on les voit passer sur les ponts suspendus et tout, c'est très, très beau. Très, très beau. Par contre, dans le Dolpo, alors c'est une région qui est plus particulière où il y a énormément de yaks. Et là, par contre, il y a très peu de porteurs hommes. C'est surtout des portages qui sont à dos de yak. C'est un peu l'inverse.
D'accord.
Et puis, la région du Rollwelling, dont je parlais tout à l'heure, par laquelle on peut rejoindre par le haut le camp de base de l'Everest, c'est une région aussi où cheminent énormément de yak, puisqu'il y a des énormes caravanes. Mais quand je dis énormes, c'est des fois, il y a 200 yak à la queue leu-leu, qui viennent du Tibet et qui viennent à Namche Bazar, qui est le grand carrefour commercial du Khumbu, pour faire du business. Donc là, ils amènent des tissus, de la laine, du Tibet, etc. Donc des fois, on a des caravanes hallucinantes, quoi. Des 100, 200 yaks sur le sentier qui descendent du haut du Rollwelling, puisqu'il est tout en haut, il y a le col qui mène au Tibet. Et ça, c'est très, très beau aussi dans cette région.
Oui, et puis vous êtes aussi photographe. Hein. Je l'ai cité au départ donc, de l'interview, mais vous êtes photographe. Donc toutes ces images, on peut les retrouver avec du texte aussi sur votre dernier livre. Alors vous avez fait pas mal de livres. Hein. J'ai vu votre page Amazon et puis sur votre site web. J'ai vu que vous avez fait pas mal de livres sur le Népal. Et donc le dernier, qui est Himalaya avec les porteurs du Népal, c'est vraiment un livre hommage sur ces hommes et ces femmes qui font donc, ce métier de porteur au Népal. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ce livre? Quelle était la genèse du livre et puis comment vous l'avez écrit?
La genèse du livre, elle se fait depuis le premier voyage, en fait. Hein, donc, je ne dis pas que ce livre a 25 ans, mais presque. Il est inspiré de 25-26 années de voyage là-bas. Puisque je vous ai dit que dès le début, c'est vrai que j'ai été touché par ces hommes et ces femmes qui font ce travail. Alors après le livre, la genèse, franchement, j'ai bossé sur ce livre pendant 2 ans et demi, tout le temps. Donc j'ai interviewé et suivi des centaines de porteurs, plus ou moins jeunes, femmes ou hommes. Et puis j'avais un traducteur avec moi, parce que moi je parle pas suffisamment bien le népali pour vraiment interroger à fond les gens et comprendre les enjeux, la dimension socio-économique, le mode de vie justement qu'on vient d'évoquer, etc. Donc j'avais un ami népalais avec moi qui était traducteur et donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai bien sûr photographié, je les ai suivis comme je vous le disais tout à l'heure à la pesée, j'ai suivi des parcours, j'ai vraiment pris des notes mais pendant 2 ans et demi. Et puis je voulais effectivement rendre la lumière en fait à ce portage qu'on ne connaît pas ou en tout cas trop peu et aux gens qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que sans eux, rien ne serait possible dans toutes ces hautes vallées, aussi bien pour nous, trekkers ou alpinistes qui avons envie d'aller là-bas, mais aussi pour les gens du pays, puisque voilà, ils ravitaillent de toute façon les gens du pays. Alors je voulais vraiment leur rendre la lumière qu'ils méritent au travers d'un ouvrage consacré à eux et à eux seuls. Moi, vous savez, j'ai fait des ascensions, j'ai fait des trucs et tout, mais je reconnais amplement que sans eux, on pourrait rien faire. Et ce qui me dérange un peu, c'est que souvent, on entend parler de tel alpiniste qui a réussi telle ascension, mais comme s'il était tout seul, les mains dans les poches.
Oui, la lumière est que sur lui. Ouais.
Voilà, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il a 10, 20 porteurs qui sont allés au moins jusqu'au camp de base avec lui et qui ont acheminé le matériel et qui installent les cordes fixes sur les pentes et tout, quoi.
Oui, parce que par alpiniste, le nombre de porteurs est assez considérable, hein.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça m'a toujours fait hurler qu'on les prenne pas en considération et qu'on les laisse dans l'ombre, en fait. Et dans ce bouquin, j'ai repris justement les extraits d'expéditions depuis 1920 jusqu'à nos jours. J'ai fait un peu une chronologie et j'ai extrait de ces récits d'expédition. Les premiers étaient anglais surtout, hein, mais ensuite, bon, il y a eu d'autres, les Français, les Allemands, les Suisses, etc. Et j'ai extrait depuis 1920 tout ce qui concernait les porteurs dans tous ces récits d'expédition.
D'accord.
Et ça, c'est une partie du livre, hein. C'est pas tout, bien sûr, mais c'est une partie, c'est vers la fin du livre. Et c'était intéressant de faire ça parce qu'on se rend compte que finalement, à l'heure actuelle, on considère beaucoup moins les porteurs qu'on ne les considérait en 1924, par exemple. C'est incroyable.
C'est étrange.
Ouais, c'est étrange, mais c'est bien réel. Quand vous lisez ces récits et les extraits, en tout cas, que j'ai mis en valeur dans le bouquin, montrent que, voilà, à cette époque-là, même avant la guerre, etc., il y a très très longtemps, tous les porteurs étaient très bien considérés. On donnait leur nom, leur village, jusqu'à quelle altitude ils étaient montés, etc. Et vraiment, on leur donnait une place entière dans l'expédition qui était faite à l'époque. Alors que maintenant, on n'en parle plus, ils sont pas là, quoi, comme s'ils n'existaient pas.
Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est la médiatisation, le fait que l'information circule différemment, qui met moins la lumière sur les porteurs qu'avant?
Non, non, je pense que c'est simplement la société actuelle qui fait que on met la lumière sur le héros, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui est allé en haut, mais les autres, on s'en occupe pas, quoi. Et ça, voilà, c'est le pourquoi du bouquin. Et puis alors, pour ce livre, je précise que j'ai eu le plaisir d'avoir la préface du fils de Tenzing, qui était le premier Sherpa en haut de l'Everest en 53. Et bien, son fils Jamling, hein, que je connais, m'a fait volontiers la préface avec beaucoup de plaisir parce que il était important pour lui aussi. Lui, il est d'ethnie Sherpa, justement, et il était très important pour lui qu'on parle de ces gens. Mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Ah, c'est très prestigieux comme nom. Et c'est son père qui est sur les bouteilles de bière Everest, hein, je crois, au Népal.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Avec Hillary en 53 au sommet de l'Everest.
En tout cas, c'est une très bonne chose pour vous et votre livre. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés par votre histoire, par la montagne, le Népal, l'Himalaya, à se procurer votre livre, dont je mettrai le lien sur la page de l'épisode consacré sur lesroutesdelasie.com. Et puis vous avez également un site web. Alors où c'est qu'on peut vous retrouver et suivre votre travail?
Alors écoutez, moi j'ai un petit site sans prétention, qui est un site essentiellement qui présente mon travail photographique, pas seulement dans l'Himalaya d'ailleurs, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Et mon petit site s'appelle, vous pouvez le trouver au www.comptoirdimages.com, avec un S à image et sans tiret, sans rien, voilà, comptoirdimages.com.
Ok, bah de toute façon, on mettra le lien sur le site comme d'habitude.
C'est sympa.
Et ben merci beaucoup Philippe, c'était vraiment sympa de discuter avec vous de tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'y retourner. Et j'espère que tous les auditeurs qui ne sont pas encore allés au Népal, qui ne sont pas encore allés voir ces merveilles et qui n'ont pas encore rencontré les fameux porteurs du Népal auront envie de le faire après l'écoute de l'émission. Je vous dis à bientôt et puis je vous laisse le mot de la fin pour conclure.
Mais écoutez, j'espère en tout cas que vous serez intéressé par cette conversation sympathique avec Romain et que peut-être, si vous ne connaissez pas encore le Népal, bah, vous aurez envie d'aller découvrir à pied ce pays qui se découvre au rythme de la marche uniquement. Voilà.
Super. Eh ben, merci encore beaucoup, Philippe, et puis à bientôt, j'espère.
Merci.
Nous voilà au bout de cette première émission de l'année 2015. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller visiter ce merveilleux pays que j'ai eu moi-même la chance de découvrir en octobre dernier et je ne peux que vous encourager à vous y rendre. Et puis un grand merci à Philippe Montillet pour sa participation. Comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com/25 pour retrouver les liens des ressources que l'on a mentionnées pendant l'interview. Cette année, en tout cas, continuez à faire comme en 2014, c'est-à-dire à m'envoyer vos commentaires et vos retours, que ce soit sur Facebook, Twitter, le site web et iTunes. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et puis c'est ce qui aide aussi, bien sûr, à faire connaître l'émission. Aujourd'hui, j'ai envie de citer 88 miles à l'heure qui m'a dit sur Facebook Un podcast qu'on ne fait pas qu'écouter, on le vit, on voyage, je suis fan, fin du commentaire, merci beaucoup à toi, ça fait vraiment très plaisir. Et puis bien sûr, une des résolutions de 2015 pour Sur les routes de l'Asie, c'est de continuer à fournir des émissions qui vous transportent, qui vous font découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures et de nouvelles régions. Et puis une autre résolution en 2015 pour Sur les routes de l'Asie, c'est un nouveau site web. Donc je vous invite à redécouvrir surlesroutesdelasie.com qui a un tout nouveau look, un peu plus sympa je trouve. Donc allez-y, allez faire un tour et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis laissez-moi encore une fois vous souhaiter une très bonne année 2015 et puis écoutez bien les podcasts, ça c'est vraiment important. On se retrouve très bientôt pour le prochain numéro. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.